Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Louis Drillon, Arjuna Andrade, Ali Etovine et Cédric Fuentes. À la réalisation, Elisabeth Miro. Prise de son, Jean Frédérics.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Quatrième et dernier épisode de notre série consacrée à l'économie du soin. Hier, nous avons examiné l'architecture de notre système de santé, fragilisé par l'influence croissante des logiques du privé. Aujourd'hui, ce sont les liens entre néolibéralisme et santé mentale que nous allons explorer. Le contrôle de la société sur les individus ne s'effectue pas seulement par la conscience et par l'idéologie, mais aussi dans le corps et par le corps. La médecine est une stratégie biopolitique. Voilà ce qu'affirmait Michel Foucault en 1974 lors d'une conférence à Rio. Si pour le philosophe, la psychiatrie constitue un outil de contrôle social, c'est aujourd'hui le concept de santé mentale qui est pointé du doigt par certains psychiatres. Un concept qui serait devenu, selon eux, un instrument au service de notre système économique néolibéral. Non seulement la dimension sociale de la maladie mentale semble aujourd'hui niée, mais la souffrance psychique apparaît également comme un outil de normalisation particulièrement efficace. Il est 14h, passé de 1 minute sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons examiner les relations entre souffrance psychique et capitalisme en compagnie de Mathieu Bellassène, psychiatre, médecin-chef d'un service dans un hôpital de banlieue parisienne et auteur de l'ouvrage « La santé mentale vers un bonheur sous contrôle » paru aux éditions La Fabrique, en compagnie également de Lise Demailly, sociologue, professeur émérite à l'Université de Lille, auteur de « Sociologie des troubles mentaux » publié à La Découverte. En fin d'émission, Arjuna Andrade sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho. Bonjour Mathieu Bellassène et Lise Demailly. Merci Bonjour. Beaucoup d'être avec nous. Alors on va commencer avec vous, Lise Demailly. Parmi les explications que l'on peut donner aux troubles psychiques, il y a la dimension biologique, la dimension psychologique, et une dernière que l'on tend peut-être à oublier, c'est la dimension sociale.
Oui, la dimension sociale est particulièrement importante et elle est assez souvent ignorée concernant les troubles mentaux. Or, elle est vraiment importante à prendre en compte et elle joue à plusieurs niveaux. D'abord, les sociétés découpent le normal et l'anormal, découpent le pathologique. Elles seront plus ou moins tolérantes à tel ou tel comportement. On peut prendre un exemple tout à fait classique, c'est le fait que l'homosexualité, pendant longtemps, était considérée comme une maladie et maintenant ne l'est plus. Les sociétés, en plus, classent ce que j'avais appelé l'étrangeté d'âme, c'est-à-dire elles découpent, elles donnent des noms, elles ont des nomenclatures, des classifications. Bon, le TDAH, par exemple, s'est beaucoup développé ces derniers temps à cause de déclassifications.
Donc le TDAH, enfin, il faut expliquer, c'est le trouble de l'hyperactivité. Mais alors justement, Alice Demailly, comment expliquer que les sociologues ne se soient pas beaucoup intéressés ou aient eu plutôt des réticences à inclure dans leur rayon d'action la souffrance psychique, c'est ce que dit par exemple la sociologue.
Les sociologues s'y intéressent, mais je dirais que les politiques publiques, j'aurai l'occasion d'y revenir, les politiques publiques s'intéressent très peu à l'aspect social des troubles. Les sociologues, si, ils s'y intéressent.
Alors vous n'êtes pas d'accord avec Eva Illouz qui dit que justement les sociologues ne s'y sont pas tant intéressés que ça a été un champ qui a été un petit peu mis de côté?
Je ne pense pas. À commencer par les travaux de Foucault qui a proposé une approche sociologique de la manière dont les sociétés font avec le trouble mental. Et alors, j'ai pas fini de déployer les différentes dimensions. Bon, donc il y a le fait que les sociétés découpent le normal et l'anormal, le fait qu'elles le classent. Et enfin, on peut considérer aussi que les sociétés produisent les subjectivités, qu'il y a une fabrication sociale des subjectivités. Bon, ça a été montré par les travaux de Max Weber, d'Elias, donc c'est relativement ancien. Bon, il y a aussi les travaux actuels sur la personnalité, l'hypothèse d'une personnalité postmoderne, ou le développement du narcissisme ou de l'individualisme. En fait, tout ça, c'est la fabrication sociale des subjectivités. Et enfin, il y a une fabrication sociale de la souffrance psychique. La souffrance psychique a une grande composante qui est sociale.
Qui est la
que
société dans laquelle
chômage,
on vit.
Que ce soit le travail, ce sont deux exemples types. Le chômage et le travail provoquent socialement la souffrance psychique.
On va y revenir, mais alors pour finir sur cette question de comment la sociologie justement s'est emparée de cette question de la souffrance psychique, c'est Durkheim qui avait ouvert la voie avec son ouvrage pionnier sur le suicide, qui l'appréhendait justement comme un fait social.
Oui, tout à fait. Durkheim a effectivement traité le suicide comme un fait social. Plus exactement, il a traité le taux social de suicide comme un fait social, en montrant que ce taux social de suicide dépendait des sociétés, des religions, finalement de cette fabrication sociale des subjectivités à l'intérieur de l'ensemble social. Il a montré que le suicide, le taux social de suicide dépendait de la forme du lien social.
Et peut-être qu'il y a eu une forme de rejet de la part de certains sociologues à l'égard de Freud ou à l'égard des neurosciences, justement une bataille entre l'explication biologique, psychanalytique d'un côté et l'explication sociologique de l'autre.
Bah, effectivement, je crois qu'il faut considérer le trouble psychique comme biopsychosocial. Donc quand les sociologues développent le fait qu'il y a un aspect social du trouble, c'est pas pour revendiquer une exclusivité totale de l'explication. Il y a bien sûr une dimension psychopathologique au trouble, psychanalytique éventuellement, et une dimension biologique. Mais il y a cette dimension sociale qu'il ne faut pas oublier et qui se manifeste notamment par les inégalités sociales de santé.
Et ce qui fait consensus aujourd'hui, en tout cas, Lise de Mailly, c'est l'augmentation des troubles mentaux dans notre société, quelle que soit leur origine justement.
On peut considérer qu'il y a une certaine augmentation des troubles psychiques répertoriés. Alors maintenant, quelle est la cause de ce phénomène? Ça peut être un effet mécanique des classifications, du fonctionnement, dont je pense qu'on en reviendra
plus tard. On va revenir sur les classifications avec Mathieu Bellassen.
DSM et CIMDIS,
qui sont la Bible des maladies mentales.
Voilà. Ça peut être aussi une dégradation du lien social dans notre société liée au système capitaliste.
Alors justement, est-ce que, par exemple, le travail est devenu un lieu de production, de souffrance psychique, tout comme la violence des rapports sociaux et l'effritement des liens? Il y a toute une série de paramètres, Lise de Mailly, qui explique aujourd'hui cette augmentation des troubles psychiques, qui est peut-être plus une augmentation justement des troubles qu'une augmentation des maladies psychiatriques.
Oui, on peut considérer que la société actuelle, son fonctionnement, est la cause d'une augmentation des maladies psychiques, sans oublier que ce phénomène-là n'est pas réparti, quelles que soient les couches de la société. Il y a tout de même une inégalité sociale de santé qu'il faut vraiment ne pas oublier. Donc quand on parle d'augmentation, il faut toujours penser que c'est une augmentation surtout pour les classes populaires.
Et bien justement, à ce propos, je voudrais vous faire entendre le psychiatre Alain Mercuel dans l'émission Les Nouveaux Chemins de la Connaissance sur France Culture. C'était le 28 décembre 2012.
La rue ne rend pas fou au sens où ça rend malade d'une maladie répertoriée. Voilà. Par contre, ça fait souffrir. Voilà, il n'y a pas de, je me plais à dire, il n'y a pas de ruite chronique ou de ruite aiguë. Il y a des personnes qui vont être anxieuses parce qu'à la rue, dépressives, délirées parce qu'elles ont pris un toxique, ou inversement, vont se retrouver à la rue à force de délirer sans avoir été aidées, soignées.
Lise de Mailly, toute la question, c'est de savoir si les problèmes psychiatriques sont la cause ou les conséquences de la vie dans la rue ou de la vie en prison, pour prendre ces deux exemples où on trouve en effet beaucoup de gens qui sont atteints. Alors, par ces
maladies. C'est une question compliquée parce que ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a une corrélation. Mais l'établissement des causalités est quelque chose de beaucoup plus délicat. Et pour parler de cette corrélation, ça vaut la peine de faire un petit détour par les inégalités de santé en général. Vous savez peut-être que actuellement, il y a une différence de 13 ans entre l'espérance de vie d'un homme de milieu populaire et l'espérance de vie d'un homme des classes supérieures. Que le cancer se distribue de façon très inégale selon les revenus. On peut dire que la corrélation principale, c'est entre le revenu et l'état de santé. Alors, quand on essaie de trouver quelles sont les causalités derrière cette corrélation, on en trouve des quantités. Je parle toujours de la santé somatique. On dit l'environnement, la pollution, l'alimentation, les réseaux sociaux, les ressources, les capacités des gens à se diriger dans le système de soins, à avoir les bons recours. On peut dire l'éducation, le souci de soi. On peut dire aussi que le système de soins ne traite pas les gens de la même façon et soigne mieux les gens qui ont des revenus élevés. Alors pour le trouble mental, c'est un peu plus compliqué puisque, comme je le disais en commençant, la mesure du trouble mental est une mesure beaucoup moins objective que la mesure du cancer ou la mesure d'une maladie cardiovasculaire, hein, puisqu'il y a construction sociale du trouble psychique. Bon. Mais l'enquête CCOMS de 2005 montre tout de même qu'il y a une corrélation étroite entre le niveau de revenu et le trouble psychique, mis à part pour les troubles du type psychose, enfin les troubles schizophrénie et troubles délirants, pour lesquels cette variable-là est moins sensible à la situation sociale des personnes. Bon. Donc la corrélation, voilà, c'est ça. Alors maintenant la cause, quelle causalité établir? Je crois qu'on peut établir trois causalités, par exemple, entre le fait qu'il y ait des SDF psychotiques, qu'il y en ait tant. On peut établir trois causalités. On peut dire ils sont SDF parce qu'ils étaient psychotiques. On peut dire c'est le fait d'être à la rue qui les a rendus psychotiques. Et on peut avoir une troisième interprétation, plutôt de type foucauldien, en disant on psychiatrise les comportements déviants et c'est une manière de gérer les classes populaires. Donc ça fait trois causalités différentes. Je crois qu'il y a du vrai dans chacune de ces causalités, et qu'après, il faut regarder au cas par cas.
On va demander l'avis du praticien, Mathieu Bellassène.
Bah, écoutez, moi je crois qu'en effet, il y a une construction sociale des troubles psychiques, mais il y a aussi une construction sociale de la disparition de troubles sociétaux. On va y revenir certainement par rapport à la question de ce qu'on peut appeler les burn-out, les épuisements professionnels, etc. Par exemple, là, on assiste à la disparition. Il n'y a pas, dans les classifications, par exemple, le trouble du management. Or, on va individualiser des troubles qui sont peut-être des troubles sociétaux. Alors Castoriadis, il disait, nous sommes tous des fragments de la société. Certes, nous sommes des fragments de la société et en soi, on a une partie de la société, mais il faut voir aussi comment la société se traite elle-même. Et je crois que c'est très important. Alors moi, je suis clinicien, je vois des gens tous les jours, voilà. Et du coup, c'est extrêmement important de penser la double articulation permanente qu'il y a au fond entre ce que moi j'appelle clinique, parce que je suis clinicien, c'est-à-dire entre la psychopathologie des gens que je vois, et la question politique, parce que vous avez dit tout à l'heure, au fond, moi je pense que la question de la biologie, de la sociologie, de la psychanalyse, quoi qu'il arrive, puisqu'on est sur un fond de société tous ensemble, on fait politiquement de la biologie, politiquement de la psychanalyse, politiquement de la sociologie, et il faut toujours avoir en tête cette double articulation. Du coup, moi, dans mon travail de clinicien, c'est pas tant la question de la causalité qui m'intéresse, parce que on est très fort pour délirer sur la causalité, mais de comment je vais pouvoir construire quelque chose avec la personne avec laquelle je suis et dans l'équipe avec laquelle je travaille.
On va revenir effectivement sur la construction politique de ces différentes classifications, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ces troubles mentaux augmentent peut-être aujourd'hui dans notre société parce qu'on ne les définit plus de la même façon. Pour le sociologue Henri Vaquin, on a inventé de nouveaux troubles pour mieux dissimuler le fait que c'est le système dans lequel on vit qui est malade.
Je termine une étude très longue dans une grande entreprise où on m'a demandé d'essayer de faire un bilan de la politique de réduction des risques psychosociaux. Parce que vous parlez de burn-out, tout ça s'inscrit dans les risques psychosociaux. Il y a une reconnaissance dans la cité, du moins par le juge, de ce qu'il en est du rôle que joue le management dans cette vulnérabilité de l'individu. En fait, aujourd'hui, moi je suis très en colère à l'égard de toutes ces démarches sur le burn-out qu'on veut classer dans les risques professionnels. C'est la société qui est malade, monsieur Vanchesse. C'est pas les salariés qui les subissent. Or, comme d'habitude, on s'offre des primes de nuisance, c'est-à-dire des compensations qu'on offre aux vulnérabilités du management des entreprises, et puis aussi aux vulnérabilités politiques qui ont fait de l'emploi ce qu'il est devenu.
Un extrait des Matins de France Culture du 2 juin 2015. Que vous inspirent ces propos d'Henri Vaquin, Mathieu Bellassène?
Écoutez, je partage, pour revenir à cette question des fragments, c'est-à-dire que, bizarrement, il y a eu un renversement, c'est-à-dire que les fragments de la société, on les fait porter à l'individu. C'est-à-dire que on fait porter la responsabilité de problématiques générales, construites politiquement, socialement, etc., à l'individu. Un exemple, moi j'ai eu des gens qui sont venus me voir parce qu'ils étaient salariés chez Orange et pas chez France Télécom, parce que là aussi, des gens qui me disaient qu'ils allaient pas bien, dépression, burn-out, etc. La première des choses à faire, bon, c'est de les entendre, de les accueillir, et puis après c'est de les envoyer chez le syndicat, chez l'avocat, etc. Et de pas se précipiter sur la mise en place d'un traitement antidépresseur. Parce que si vous faites ça, vous ne reconnaissez pas le trauma social, vous entérinez le fait que la personne, au fond, elle est un petit peu responsable de ce qui lui arrive. Bon.
Lise de Maillieu.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, Mathieu Bellassène, sur cet aspect-là des choses. Mais il y a un deuxième aspect, c'est la diminution de la tolérance au comportement déviant. Et ça se manifeste particulièrement par rapport aux adolescents. C'est là qu'on voit une explosion de ce qui est diagnostiqué comme trouble psychopathologique pour des comportements qui sont des comportements déviants, des comportements de réaction à la situation sociale des adolescents de milieux populaires.
Et c'est comme ça que le TDAH, donc le trouble déficit de l'attention hyperactivité, a rejoint
de la personnalité, trouble des conduites, trouble de l'opposition, tous les comportements un peu oppositionnels des adolescents sont exposés aujourd'hui à se faire psychiatriser.
Et ils rejoignent ce fameux manuel de référence dont on parlait, le DSM-5. C'est un manuel de référence, Mathieu Bellassène, mais c'est aussi un instrument qui est très contesté chez les psychiatres.
Oui, alors moi je m'en sers absolument jamais, parce que il y a toute la dimension, c'est venu quand même des assurances aux États-Unis pour faire rembourser les prises en charge au départ dans les années 80. Bon.
Donc c'est un manuel pour expliquer qui répertorie un certain nombre de troubles psychiques.
Voilà, il y a une inflation du nombre de troubles. Alors le plus drôle, mais ça a été retiré, c'est dans le DSM-5, vous êtes triste plus de 2 semaines parce que vous avez perdu un proche, Et si vous êtes encore triste au bout de 2 semaines, il faut quand même mettre un antidépresseur parce que vous avez une tristesse pathologique. Enfin bon, c'est des
foutaises. Et cela alors même que dans le DSM-4, c'était plusieurs mois.
Oui, mais c'est-à-dire que c'est comme le cholestérol, si vous voulez. Comme on pense que la maladie mentale, etc., c'est une maladie comme les autres, on fait varier les seuils comme dans les autres maladies, c'est-à-dire on diminue les normes de cholestérol et puis vous allez vendre des pilules tous les jours à des gens toute leur vie, quoi. Donc c'est exactement la même logique. Ce qu'il faut dire, elle s'appuie là aussi sur un fond de société qui est celle de la médicalisation de l'existence, pour certains l'ont dit comme ça, de la psychologisation de l'existence. Et du coup, le DSM-5, à la fois, c'est un symptôme de tout ça. C'est-à-dire qu'il rencontre aussi une sorte de demande sociale, une demande aussi professionnelle d'être bien rassuré, de mettre les gens dans des cases, de prévoir par avance ce qu'il arrive aux gens. Ce qui est assez étonnant dans toutes ces... Et moi, je pense que c'est par là aussi que ça va se déconstruire, cette affaire-là. C'est qu'on ne demande plus jamais aux gens qu'est-ce qui leur arrive dans leur vie. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous arrive dans votre existence? Pourquoi vous? Qu'est-ce qui vous a rendu comme ça? Vous voyez, cette dimension-là d'historicisation de ce qui fait la vie de la personne dans sa vie immédiate, dans son entourage immédiat et dans la société, il n'est jamais posé. Quel travail il fait?
Alors
comment ça se passe?
Là, on parle du DSM, mais dans la pratique des cliniciens, un certain nombre de psychiatres mêlent justement à la fois cet aspect médicamenteux et cet aspect de la parole.
Oui, non, bien sûr. Moi, si vous voulez, je prescris des médicaments, bien entendu, tous les jours. C'est-à-dire que le boulot d'un psy, et là, 4 en l'occurrence, puisque je suis médecin, comment la personne va pouvoir raconter quelque chose de ce qui lui arrive. Et les médicaments, ça permet d'entrer en relation. Moi, je travaille à l'hôpital, il y a des gens qui arrivent très délirants, très mal, etc. Pour rétablir une dimension de contact avec eux, il va falloir mettre un peu de médicaments. Mais ça, c'est le début du travail. Or, de plus en plus, en psychiatrie, on s'arrête là. C'est-à-dire qu'on s'arrête à la prescription de médicaments, on s'arrête au fait que, finalement, on fait taire les gens, vous voyez. Et en les faisant taire, on fait taire aussi toutes les histoires qu'ils ont avec eux.
Et vous expliquez aussi dans votre ouvrage, Mathieu Bellassène, que la catégorie d'hystérie, par exemple, a été supprimée au profit de toute une série d'autres troubles. Il faut y voir aussi une influence des laboratoires pharmaceutiques.
Oui, c'est-à-dire que un trouble égale un médicament, mais là aussi, si vous voulez, il y a et l'influence des firmes, bien entendu, qui reconstruisent des catégories toujours plus fines avec toujours plus de médicaments à vendre, Et il y a le fait que les professionnels sont formés comme ça maintenant à un problème égal à un médoc. Et puis, il y a aussi la demande sociétale des patients avec toutes les pubs autour, mais aussi des enseignants à l'école, l'hyperactivité. Elle est aussi le fait que les enseignants, du fait de leur précarisation, etc., ne supportent plus dès qu'un gamin commence à taper le bordel en classe. Voyez, du coup,
bon, quand on entend les enseignants, ça a l'air quand même compliqué de gérer les classes aussi pour toute une série de raisons. Mais Lise Emailly.
Oui, je crois que le DSM a un effet pervers qui est qu'on ne s'intéresse plus au contexte, qu'on ne demande plus effectivement à la personne, mais qu'est-ce qui vous a amené là? Qu'est-ce qui fait que vous êtes là? Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas? Parce qu'on cherche directement un trouble étiqueté psychologique ou biologique. Mais pourquoi est-ce que le DSM, je reviens à cette question-là, pourquoi est-ce que le DSM ou la CIMDIS, puisque les hôpitaux français n'appliquent pas le DSM, mais ils appliquent la CIMDIS, CIM-11, c'est-à-dire classification internationale des maladies produites par l'OMS. Pourquoi est-ce que ça marche ? Finalement, ces classifications, pourquoi est-ce qu'il y a très peu de chefs de service, enfin moi j'en connais un au moins, dans le Nord, qui a refusé d'appliquer ces classifications, qui a refusé de rentrer les diagnostics dans les ordinateurs, mais finalement la plupart acceptent. Or je crois que c'est parce qu'il y a une énorme demande sociale de protocolisation de tous les actes relationnels.
C'est rassurant pour les patients.
C'est rassurant pour les patients, c'est rassurant pour les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics tiennent absolument à protocoliser tout ce qui est acte relationnel. Alors que ça soit le diagnostic ou que ça soit la suite, on voit des protocoles se développer pour tout. Et c'est une manière de réduire la subjectivité finalement des soignants. C'est une manière de mettre en cage la subjectivité des soignants puisqu'ils sont assujettis au protocole.
Pour revenir sur le rôle des laboratoires pharmaceutiques, je vous propose d'écouter Philippe Pignard. Il est spécialiste de l'industrie du médicament.
Il y a des machines qui se mettent en place au sein de la psychiatrie et qui se connectent très bien avec le capitalisme tel qu'il se développe aujourd'hui et que ça se connecte bien. Et c'est vrai qu'on voit la machine à produire des médicaments, c'est une machine industrielle, donc qui produit à la fois des indications thérapeutiques nouvelles et qui se casse sur des indications anciennes, mais qu'en crée des nouvelles en permanence, comme on l'a vu avec l'hyperactivité chez l'enfant, c'est une nouvelle indication psychiatrique. Et ça se connecte parce qu'il y a des médicaments et ces médicaments effectivement sont fabriqués par une industrie qui est totalement une des pièces maîtresses même du capitalisme tel qu'il se développe aujourd'hui. Donc tout ça, c'est des machines qui se fonctionnent bien et c'est vrai que la psychanalyse, elle a beaucoup de mal à se connecter à ces machines-là. Quelque part, c'est de l'artisanat.
Un extrait de l'émission Science et Conscience diffusée sur France Culture le 3 avril 2008, l'invention de nouveaux troubles, Mathieu Bellassène, est de plus en plus corrélée, comme on le disait, à l'apparition de médicaments qui peuvent y répondre.
Oui, si vous voulez, je crois que c'était dans votre émission d'hier, là, sur la question des laboratoires pharmaceutiques et du fait que les dispositifs publics maintenant, enfin, les dispositifs de soins ne sont plus là pour soigner les gens, mais sont là pour faire des économies, et on se demande bien pourquoi, d'ailleurs. Du coup, tout ça, c'est absolument connecté, c'est-à-dire que si vous prescrivez un médicament, un antidépresseur à quelqu'un qui vient vous dire qu'il est triste, vous réduisez d'autant la consultation à 3-4 minutes. C'est aussi pour ça qu'il y a une inflation des prescriptions par un certain nombre de collègues, alors que moi je pense que vraiment notre travail finalement c'est de déprescrire énormément, c'est-à-dire que il faut quand quelqu'un arrive qu'il est triste et qu'il est déprimé, d'abord on va l'accueillir. Par contre, là où il faut se méfier sur la question qu'il aborde à la fin, la question de l'artisanat. Je pense que on travaille d'une façon à limiter les effets de masse des troubles psychiques en ce moment. C'est-à-dire que on nous présente maintenant qu'il y a des troubles individuels de masse. Ça a été mis dans les rapports, etc. Et je pense que voir les choses comme ça, il faut pas dire d'un côté il y a les grands, il y a ceux qui sont sérieux, qui font vraiment du travail en abattant énormément de j'allais dire en abattant énormément de patients, mais c'est un petit peu ça quand même, en abattant énormément d'actes cliniques, etc. Et de l'autre côté, l'artisanat, où ils savent pas trop ce qu'ils font, etc. Non, je crois qu'il y a vraiment une dimension très importante. Cette dimension relationnelle pour savoir qui on a en face de soi, elle demande un peu de temps. Alors, c'est pas tellement la question de l'artisanat, c'est la question du rapport au temps. Et je crois que ça, c'est connecté vraiment à la question capitalistique du moment. C'est-à-dire comment on institue un temps qui n'est pas celui de la cadence infernale telle qu'on l'a actuellement dans nos hôpitaux, dans nos lieux de vie et de soins, quoi.
Ces classifications, elles posent un certain nombre de questions, et notamment la question des conséquences, à la fois sur le patient et sur le clinicien, Lise de Mailly.
Oui, et une des conséquences sur le patient, c'est que ces troubles sont de plus en plus interprétés comme de l'inaptitude, comme de l'incapacité. Hein, donc on a une montée à l'heure actuelle du modèle capacitaire, hein, selon lequel finalement l'individu souffrant est un individu qui n'a pas été capable de s'adapter, qui n'a pas les capacités nécessaires. Voilà. Donc c'est une conception extrêmement réductrice de la souffrance. La souffrance n'est pas une protestation contre le monde, contre le manager, contre ce qui ne va pas dans la société, contre le chômage, etc. Non, la souffrance est une incapacité.
En individualisant la souffrance,
c'est une conséquence très négative pour les patients. Il y a eu des travaux sur la consommation des psychotropes par les femmes de milieu populaire. C'est la seule chose qu'on leur propose quand elles sont en état de souffrance. Et c'est vraiment les considérer comme incapables de faire face. C'est tout ce qu'on leur dit. Vous êtes incapable de faire face.
Mathieu Bellassène.
C'est exactement la définition de ce que c'est que la santé mentale maintenant. La santé mentale, c'est s'adapter à une situation à laquelle on ne peut rien changer. Donc, toute situation nous est présentée comme inchangeable. L'individu doit se conformer à cette situation. Vous voyez, c'est là où se trouve le piège. C'est-à-dire que, un, il faut absolument lutter contre ce qui nous est présenté comme inchangeable. Et deux, il faut essayer de le changer dans un sens un peu plus émancipateur. Et l'individu, là-dedans, il faut qu'il se relie aux autres. Et de manière collective, qu'il reste plus seul dans sa tanière.
On a parlé des cliniciens qui s'appuyaient sur le DSM. Les politiques publiques aussi s'appuient sur le DSM, cette fameuse bible des maladies psychiques pour penser le soin. C'est l'idée, Mathieu Bellassène, que ces classifications, elles apportent une légitimité scientifique à une politique et du coup, elles effacent peut-être la dimension idéologique que contient toute politique.
Oui, alors c'est ça, c'est le DSM est dit athéorique, etc. Bon, je vous ai dit l'histoire quand même, c'était les assurances privées aux États-Unis, donc l'athéorisme, ça peut faire un peu rigoler. Par ailleurs, ça vient sur le fond du fait que de plus en plus de médecins, voire de psychiatres, se prennent de plus en plus pour des gestionnaires plutôt que pour des cliniciens. Du coup, le DSM, c'est bien, on va pouvoir homogénéiser les patients. L'autre jour, là, on parlait des groupes homogènes de malades. Et on avait parlé du PMSI, je crois, dans votre émission précédente, là. Eh ben, le PMSI et les groupes homogènes de malades, ils ont besoin d'outils pour homogénéiser.
Le PMSI,
alors, c'est, au fond, l'informatisation des systèmes de santé dans les hôpitaux. Cette informatisation, elle se fait à partir d'outils, et l'outil magnifique pour créer de l'homogène, c'est précisément la classification internationale des maladies. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un diagnostic avec une lettre, un chiffre, s'il y a marqué schizophrène, c'est F20 par exemple, vous avez un groupe homogène. Or, ça, cliniquement, dans la réalité, dans le réel le plus brut, c'est absolument faux. Il n'y a pas une personne qui ressemble à une autre. Il y a des paysages qui peuvent sembler pareils, mais il n'y a jamais la même prise en charge pour deux personnes différentes, quoi qu'on nous en dise. Dans la réalité des faits, c'est pas comme ça que ça se passe.
Mais ça a l'avantage d'apporter des chiffres qui peuvent être facilement utilisés ensuite par les gouvernements, Lise de Mailly.
Le DSM est effectivement utilisé par des chercheurs. J'avais discuté avec un psychiatre qui me disait « J'utilise le DSM quand je fais de la recherche, j'utilise la CIM-10 parce qu'il faut bien que je rentre dans le PMSI, hein, dans le programme informatisé, donc j'utilise la CIM-10. Et pour la clinique, je me débrouille par moi-même. »
Mais l'objectif reste, selon vous, d'individualiser des problèmes qui sont politiques et donc d'une certaine façon de dédouaner l'État de ses responsabilités, Mathieu Bellassène.
Alors c'est pour ça que je dis qu'il y a une double articulation, enfin il n'y a pas que moi qui le dis d'ailleurs, mais il y a à la fois toujours une problématique qui peut être psychopathologique de la personne elle-même, etc. Quelqu'un peut être déprimé parce que il est déprimé, etc. Mais il peut y avoir un contexte aussi dépressogène. Bon, donc faut toujours, faut pas mettre l'un contre l'autre, faut essayer de les articuler. Mais du coup, j'ai oublié votre question.
Eh bien, justement, est-ce que ça, c'est une façon de dédouaner l'État de ses responsabilités en individualisant les problèmes?
Si vous voulez dédouaner l'État, c'est plutôt que l'État produit un certain mode de gouvernement, mais pas que l'État, parce que l'État maintenant c'est devenu un outil pour la rationalité néolibérale, si on va assez vite. Du coup, c'est pas tellement qu'il se dédouane, c'est-à-dire qu'il construit une politique qui occulte des problématiques de construction sociale, de construction politique. C'est ça la force. C'est-à-dire, la force maintenant, c'est que on arrive à nous dire avec des beaux mots, le bien-être, la qualité de vie et toutes ces choses-là, voilà, que l'individu peut se placer par rapport à ces beaux mots-là. Or, on voit bien que dans la réalité de la vie, toutes ces choses-là ne veulent pas dire grand-chose. Il y a qu'à voir ce qui se passe sur les ronds-points, etc. en ce moment, vous voyez. Il faut essayer de penser qu'est-ce qui est occulté par la gouvernementalité actuelle. Quoi.
Vous citez aussi l'exemple du livre vert de la Commission européenne consacré à la santé mentale, qui propose en 2005 d'améliorer les capacités personnelles pour résister au stress. Là encore, il y a une individualisation de la responsabilité d'aller mieux.
Alors, il faudrait revenir un petit peu sur l'histoire de la santé mentale là, pour un peu développer ça, mais 2005, c'est une année vachement importante, parce que donc, dans ce livre vert de l'Union européenne, donc c'est l'Union européenne, il est dit avoir une population en bonne santé mentale va permettre de remplir les objectifs stratégiques de l'Union européenne. Vous savez, c'est le moment où on a voté non, mais c'était oui quand même. C'est la stratégie de Lisbonne. Bon, ça, c'est au départ, ça se fonde sur des arguments très sympas, c'est-à-dire que il faut déstigmatiser les gens, faut qu'ils soient heureux, etc., etc. Sauf que faut qu'ils soient heureux, pourquoi? Pas tellement pour eux-mêmes. Faut qu'ils aient une vie réussie, pas tellement pour eux-mêmes. Il faut qu'ils aient une vie réussie parce que comme ça, les investisseurs vont pouvoir investir dans une population en bonne santé et donc elle sera plus performante et compétitive.
On va revenir sur tous ces aspects, Amélie Desmailly. Je voudrais vous entendre là-dessus. Est-ce que selon vous, on assiste ainsi à une psychiatrisation du monde social? Est-ce qu'on est en train d'essayer d'imposer des normes qui sont les normes sociales dominantes, finalement?
Il y a une certaine psychiatrisation du monde social et parallèlement, il y a une augmentation de l'intolérance à la déviance. Il faut avoir ça en tête aussi, hein, dans le paysage de l'enfermement, il y a une augmentation du nombre de gens en prison et de nombre de gens en prison qui ont éventuellement des troubles psychiatriques. On constate une augmentation de l'intolérance à la déviance des milieux populaires. Bon, on peut le voir à propos des gilets jaunes.
Parce que la prison, c'est comme pour la question de la rue, savoir quelle est la causalité. Est-ce que les pathologies psychiatriques mènent en prison d'une certaine façon?
J'étais en train de dire autre chose. On enferme de plus en plus en prison. Voilà, ça fait partie aussi du paysage. On enferme de plus en plus en prison et après, on peut psychiatriser les gens qui sont en prison. On met de plus en plus les adolescents en contact avec des psychologues, avec des psychiatres, pour le moindre, par exemple, désintérêt scolaire. Donc, il y a effectivement des processus de psychiatrisation et parallèlement, il y a une idéologie sécuritaire qui affecte notre société. Et les deux choses marchent un peu ensemble, parce que la psychiatrie, malheureusement pour elle, n'a pas pour fonction sociale uniquement de soigner, elle a aussi une fonction d'ordre public. Et les psychiatres sont pris dans cette contradiction entre la fonction de soin et la fonction d'ordre public.
Et sur cette question de la prison, entre le fait qu'un certain nombre de pathologies psychiques peuvent mener à la prison, et au contraire le fait qu'une fois en prison, les duretés de la vie quotidienne peuvent aussi entraîner l'émergence de maladies.
Il y a des travaux de Didier Fassin qui sont très intéressants là-dessus, sur ce qui se passe en prison et la façon dont les gens peuvent être poussés à bout en prison, ce qui aboutit à un taux de suicide qui est 6 fois supérieur à celui de la population générale.
Et en même temps, il y a, je crois, de moins en moins de psychiatres qui parlent d'irresponsabilité pénale par rapport au certain nombre de délits.
Il y a une pression sociale à ce que les délinquants soient punis.
Vous l'expliquerez.
Donc effectivement, il y a de moins en moins d'irresponsabilité déclarée.
Pénale qui soit
prononcée. Et il y a de plus en plus, il faut le savoir aussi, il y a de plus en plus d'hospitalisation sans consentement. Tout ça fait partie du climat sécuritaire de notre société.
Alors on va y revenir et plus largement aussi, on va voir quel usage politique peut être fait justement de ce concept de santé mentale. On en parle dans un instant.
Trois sœurs, pas de frères, heureusement Dieu a créé les amis. Il y a des choses que j'aurais pas voulu comprendre en grandissant. Tout le monde est zinzin dans ma famille, que des embrouilles dans ma famille. J'ai pas vu ma grande sœur depuis 10 ans. Grand-père a détruit ma mère et ma grand-mère avant elle. J'ai jamais eu d'amour pour lui, j'ai toujours fait semblant à Noël. Oh. Grand-mère était loin d'être parfaite, ouais. Mais sans cette famille malsaine, elle serait peut-être jamais morte d'un cancer. Et j'aurais peut-être pu la connaître un peu plus. Oh. Guidé par ses croyances jusqu'au bout du monde pour le sauver naïvement en rentrant. Quand la douane lui a demandé de présenter son identité, elle a souri tout en déchirant ses papiers. Les gens normaux se sont bien dans la machine. Grand-mère n'y a jamais trouvé sa place. Elle marchait nue en criant des mots magiques. Ils disent qu'elle était folle, sans blague. T'es folle, sans blague. Ma tête est pleine de courant d'air. Mon réveil sonne, y'a que ma flemme qui se rendort. Ce matin, je pars faire le tour du monde avec une fille folle qui fait tous ses choix en mode random. On ira là où on nous dit qu'il y a aucune chance. Là où les murs changent, là où les hurles chantent. Tous les deux victimes de nos pulsions. On fera l'amour sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est beau la folie, putain. J'ai enfin plus peur de m'ennuyer. Cette fille, c'est ma vitamine D. Je l'ai attendue comme juillet. On s'aime et on s'attire. Je viens de comprendre pourquoi on vit des aimants. Mais c'est trop beau pour être vrai, on se détestera forcément. Les gens normaux se sentent bien dans la machine. Grand-mère n'y a jamais trouvé sa place. Elle marchait nue en criant des mots magiques. Ils disent qu'elle était folle, sans blague. C'est beau la folie, beau la folie.
Beau la folie de l'homme pâle sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho. Suite de notre discussion sur les liens entre santé mentale et néolibéralisme en compagnie de Mathieu Bellassen et de Lise Desmaillis. Et c'est le moment d'écouter Michel Foucault.
Est-ce que tous les pouvoirs ne sont pas actuellement liés à un pouvoir particulier qui est celui de normalisation? Enfin, je veux dire, est-ce que le pouvoir de normalisation, les techniques de normalisation ne sont pas, à l'heure actuelle, une sorte d'instrument général que vous trouvez un peu partout, dans l'institution scolaire, dans l'institution pénale, dans les ateliers, dans les usines, dans les administrations, comme sorte d'instrument général et généralement accepté parce que scientifique, qui va permettre de dominer et d'assujettir des individus. Autrement dit, la psychiatrie comme instrument général d'assujettissement et de normalisation des individus.
Michel Foucault au micro de Jacques Chancel, le 20 mars 1975 sur France Inter. Que pensez-vous l'un et l'autre, Lise Desmaillis, Mathieu Bellassen, de cette vision donc de la psychiatrie comme instrument d'assujettissement et de normalisation des individus? Lise Desmaillis.
La psychiatrie a une dimension de soutien de l'ordre public. Elle a partie liée avec l'État de ce côté-là, mais elle n'est pas que ça. Et je dirais que par rapport à des formules foucauldiennes trop rigides, je dirais qu'il ne faut jamais oublier les capacités de résistance et des professionnels et des individus à ces techniques de normalisation. Mmh. Il y a toujours des marges de manœuvre. Il y a des services psychiatriques qui font autre chose que de la normalisation. Et il y a des individus qui savent, enclencher une réflexion sur soi, des techniques de soi qui leur permettent de se protéger de la normalisation ambiante.
Mathieu Bellassen.
Si vous voulez, cette question de l'assujettissement et de la question disciplinaire de la psychiatrie, bien entendu. Mais si vous voulez, moi, si je suis psychiatre, c'est précisément pour essayer, à partir de là, de faire une subjectivation qui soit du côté de l'émancipation. C'est-à-dire que à partir de la contrainte, comment détourner, subvertir cette contrainte d'ordre social. C'est-à-dire, il est extrêmement important d'être psychiatre, au fond, un petit peu contre la psychiatrie, comme peuvent le dire aussi des amis. Mais il est extrêmement important de jamais oublier à la fois les marges de manœuvre qu'on a tout le temps, et les créations extrêmement importantes qui peuvent se passer dans nos lieux et qui refondent aussi la capacité de la démocratie. C'est-à-dire que moi, je me réfère à un courant important de l'histoire de la psychiatrie qui est la psychothérapie institutionnelle, qui dit au fond, pour soigner les patients, d'abord, il faut soigner l'hôpital, il faut soigner le milieu. Et le milieu lui-même produit de la pathologie. Si vous n'avez pas soigné le milieu, ça ne marchera pas, vous ne pourrez pas soigner les patients. Mais pour soigner le milieu, il faut absolument avoir des techniques de traitement de l'ambiance et des techniques qui permettent, au fond, que chacun puisse avoir la parole à sa mesure et puisse mettre en question l'institution elle-même. Donc, il est extrêmement important que les patients, les familles, etc., puisse nous mettre en question et qu'on accepte ce jeu-là de mise en question.
Alors justement, comment le milieu a évolué et comment le regard sur la maladie psychiatrique s'est lui aussi transformé. Vous pointez du doigt, Mathieu Bellassène, le concept de santé mentale. Comment est apparu ce concept? Est-ce que vous pourriez nous refaire un peu l'historique?
Alors, en très très rapide, puisque je l'ai développé dans le bouquin, là, au départ, on parle d'hygiène mentale. Hein, c'est un petit peu votre première émission, c'était sur l'hygiène lundi. Voilà, il y a une thématique de l'hygiène publique, c'est l'hygiène mentale. Bon. Et en fait, au sortir de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, ce concept de santé mentale va apparaître de manière importante. Et en France, il est lié, au fond, à comment la cité va pouvoir accueillir les plus fragiles d'entre nous, entre guillemets, les fous à l'époque. Et du coup, on va mettre en place des dispositifs de santé mentale. Donc la santé mentale initiale, elle est liée, au fond, à une émancipation de la psychiatrie depuis l'asile.
C'est voyez un concept progressiste.
C'est un concept progressiste initialement. Après, elle va fonctionner comme un agrégateur de plus en plus grand de problématiques sociétales. Les toxicomanies, au départ, elles apparaissent, elles sont pas forcément psychiatrisées, elles vont être psychiatrisées ensuite, ça va devenir les addictions, etc. Vous allez avoir énormément de choses où la santé mentale va permettre aussi l'essor de la psychiatrie démocratique, etc. Des gens comme Basaglia en Italie, ils fondent les centres communautaires de santé mentale. C'est-à-dire que c'est ces mots-là qui permettent tout ce travail de mise en question de la société. Et en fait, vous allez avoir, à partir des années, dans les années 2000, il va y avoir une cristallisation à la fois internationale, puisque l'Organisation mondiale de la santé en 2001 va faire l'année mondiale de la santé mentale, et donc va dire il faut que la santé mentale soit dans toutes les politiques de santé, mais dans toutes les politiques publiques. Bon, donc ça, vous avez une déterritorialisation, on peut dire, de cette santé mentale, qui va en fait aller sur un versant plus économique. Et donc c'est là où 5 ans plus tard, vous avez le livre vert de l'Union européenne, mais il n'y a pas que dans l'Union européenne, c'est dans beaucoup d'endroits que ça va se passer. C'est-à-dire que la santé mentale ne va être vue que sous le prisme économique. Alors c'est pour ça que je dis, au fond, on peut appeler ça le santé-mentalisme, c'est-à-dire l'articulation entre la santé mentale et le néolibéralisme. Pourquoi? Parce que la santé mentale, en fait, devient un instrument de la rationalité néolibérale.
Alors, avant d'en venir au néolibéralisme, Lise de Mailly, un commentaire peut-être sur cette évolution de ce concept de santé mentale qui ne concerne peut-être plus seulement la médecine, mais aujourd'hui, de plus en plus, l'hygiène de vie, justement.
Alors, le problème du mot santé mentale, c'est qu'il est extrêmement ambigu, puisqu'il veut dire deux choses finalement presque opposées. Hein, il veut dire l'état psychologique de santé mentale, bon, et ça, on a parlé de ce que ça pouvait avoir d'idéologique, hein, en déniant les responsabilités de la société dans le fait que les gens se sentent bien ou mal. Et d'autre part, c'est le soin en santé mentale, donc c'est un déplacement de la psychiatrie. Hein. Bon, donc je vais parler de ce deuxième sens, hein, le soin en santé mentale comme remplaçant la psychiatrie. Alors il y a bien sûr une dimension économique manifeste, c'est qu'il faut que les personnes troublées ne restent pas longtemps en psychiatrie et qu'elles soient prises en charge ailleurs, parce qu'ailleurs c'est moins cher. Là, on le voit de façon massive, un déplacement des populations prises en charge ailleurs qu'en psychiatrie.
Mais ailleurs où, par exemple?
Ben, le médico-social, hein, les établissements médico-sociaux, la prison, voilà, ailleurs.
La rue aussi,
la rue,
le cimetière.
Hein. Ou chez eux, voilà. Donc, ça, c'est, je dirais, le motif économique du déplacement de la psychiatrie vers le soin en santé mentale. Maintenant, il y a quelque chose que je trouve tout de même intéressant dans ce concept, c'est que il dit que le trouble psychique, c'est pas l'affaire exclusive de la psychiatrie. Ça peut être l'affaire des élus locaux, ça peut être l'affaire des habitants, ça peut être l'affaire des usagers, ça peut être l'affaire des politiques culturelles.
C'est un concept plus large, en réalité.
C'est plus large, ça implique davantage d'acteurs. Je dirais que ça pourrait être interprété de façon positive. Enfin, qu'on peut pousser, militer pour ce sens-là du terme santé mentale, pour faire en sorte que la politique de santé mentale, ça soit quelque chose qui concerne plusieurs institutions, qui concerne aussi les usagers, et des innovations comme les conseils locaux de santé mentale me paraissent intéressants.
Alors qu'aujourd'hui, peut-être que ce concept...
Je dirais aussi que les services qui fonctionnent sur la base de la psychothérapie institutionnelle ou qui fonctionnent sur la base de la psychiatrie sociale et communautaire sont très ouverts sur la ville, sur d'autres groupes, sur les politiques culturelles, sportives, etc. Et que là, on a un phénomène intéressant.
Donc une santé mentale qui serait vue d'un point de vue positif, alors que ce que vous dites, Mathieu Bellassène, c'est qu'aujourd'hui, dans nos institutions, la santé mentale est davantage vue comme l'une des conditions de la productivité des individus.
C'est le premier sens.
C'est-à-dire que la santé mentale, maintenant, elle sert à détruire la psychiatrie. C'est-à-dire, autant il y a une antipsychiatrie, on peut dire émancipatrice, c'est-à-dire d'en finir avec le côté disciplinaire de la psychiatrie, autant maintenant, il y a une antipsychiatrie gestionnaire qui est là pour détruire la psychiatrie parce que ça coûte trop cher, parce que ces gens sont inutiles. La question de l'utilité sociale, économique des individus, elle devient de plus en plus centrale dans la société, en psychiatrie et ailleurs, bien entendu. Du coup, vous avez en permanence, dans nos pratiques à nous de psychiatrie, vous avez de plus en plus les mots positifs de la santé mentale. Il faut bien comprendre qu'en 2009, il y a eu un rapport qui était un rapport remis au secrétariat d'État à l'économie numérique. Ça n'a rien à voir avec le ministre de la Santé, vous voyez. C'était la santé mentale, l'affaire de tous. Et là-dedans, on disait, bon, la santé mentale liée à la psychiatrie, la mauvaise santé mentale, ça ne nous intéresse plus. Bon, la santé mentale un peu borderline, c'est-à-dire les suicides chez Orange et compagnie, la détresse psychosociale, pourquoi pas. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est la santé mentale positive. Alors, je peux vous lire la définition, parce qu'elle vaut son pesant de cacahuètes. Elle recouvre l'estime de soi, les capacités d'adaptation, le sentiment de maîtrise de sa vie, longtemps négligée. Cette dimension est la condition d'une vie réussie. Donc, vous voyez, là, il n'y a que des mots positifs. Comment vous pouvez être contre ça? Sauf que quand on vous dit de l'extérieur ce que c'est qu'une vie réussie, moi, ça me fait un peu flipper. Ensuite, quand on nous dit que maîtriser sa vie, avoir l'estime de soi, s'adapter, etc., c'est bien, sur quel fond ça vient, voyez? Du coup, la santé mentale, elle a aussi maintenant comme effet de discipliner les pratiques sur un mode productiviste, voyez? C'est ça qu'il faut qu'on arrive à comprendre. Et surtout, elle domestique pas que la psychiatrie. Elle, c'est dans toute la société, cette affaire.
Alors justement, vous parlez de discipliner les pratiques. Selon le journaliste Patrick Coupchou, l'usage politique de la santé mentale renforce l'institution économique en créant des individus dociles. On l'écoute.
Le fonctionnement de l'économie et le fonctionnement de la société créent des dégâts considérables. Les cabinets de psy sont pleins, les suicides au travail, ça continue, etc. Donc il faut faire face à ça. C'est-à-dire que on est dans un système mouvant, changeant, qui n'arrête pas de bouger, qui n'arrête pas de changer, qui maltraite les individus. Il suffit de voir ce qui se passe dans l'entreprise et avec la souffrance au travail. Et donc on a cette volonté de créer un individu marché, c'est-à-dire quelqu'un qui soit flexible, qui soit capable de résilience, qui soit capable surtout d'être compétitif, performant, à tous les moments, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, même si cette situation change. Et fondamentalement, la santé mentale, elle sert à ça.
Vous êtes d'accord, Mathieu Bellassène, avec cette vision selon laquelle on cherche à imposer la logique du marché jusque dans l'esprit des citoyens?
Je suis absolument d'accord avec Patrick Coupchou. Et d'ailleurs, il faut dire que les énoncés qu'on entend partout, et là, ça va bientôt être les semaines d'information en santé mentale, vous allez les entendre partout, à la radio, à la télé, c'est un, la santé mentale coûte cher, 3 à 4% du PIB part en mauvaise santé mentale. Deux, un Français sur 4, sur 5 aura un jour un trouble de mauvaise santé mentale. On vous dit jamais où sont les seuils, hein. Ça rejoint la première question. Ensuite, on nous dit la santé mentale est une priorité de santé publique. Et enfin, le petit dernier, c'est la maladie mentale est une maladie comme les autres. Alors, ces quatre énoncés, ça va former des discours qui, au fond, vont privilégier l'importance du premier point, c'est-à-dire que ça coûte cher, 3 à 4% du PIB, et donc il va falloir qu'on arrive à faire des économies aussi là-dessus, et donc à mettre en place des dispositifs pour que ça coûte moins cher à la société. Voyez, et pour ça, ça va s'appuyer aussi sur le fait comment remettre les gens au travail beaucoup plus vite. Comment vous connaissez l'histoire des tickets psy, peut-être?
Alors non, expliquez-nous.
Alors bon, ben, si vous connaissez les tickets resto où l'employeur paye la moitié de votre repas, quand il y a un salarié qui s'isole un peu, il va manger tout seul à la cantine. Attention, il y a des grilles pour dire oulala, il y a peut-être un problème. Donc il va être convoqué par le DRH ou le manager, et là on va lui dire bah écoutez, ça va pas bien, hein, puis en plus vous êtes un peu moins productif, donc écoutez, ce que je vous propose, c'est que vous allez aller voir un psy, hein, qui sera payé pendant 20 séances par l'entreprise. À la 21e séance, si le mec se fout en l'air, c'est bon, on a mis en place le dispositif, donc pas de problème.
Après, on peut saluer l'initiative de payer 20 séances de psy qui peuvent être tout de même utiles.
Bah écoutez, le problème c'est que là aussi, on occulte la responsabilité sociale, sociétale des problèmes de management, par exemple. Du coup, c'est ça en ce moment. On met en place des plateformes, on met en place des dispositifs pour au fond déresponsabiliser les personnes qui organisent le travail, les sociétés, etc. Et donc, c'est la santé mentale, elle permet ça.
Lise Demailly, vous êtes d'accord avec cette vision aussi selon laquelle chaque individu est peut-être voué à devenir une entreprise autonome, et du coup le capital santé mentale serait finalement un capital comme un autre dans le projet néolibéral ?
Oui, tout à fait. Chacun est voué à devenir une entrepreneur de soi-même. Et dans cette opération idéologique, l'imputation du malheur psychique, c'est à soi, et même plus précisément à son cerveau, hein, puisque de plus en plus, le malheur psychique est imputé au cerveau, même pas à la personne dans sa vie concrète, avec ses relations, avec sa famille, avec son travail ou avec son chômage, mais à son cerveau. Donc c'est ça le problème politique essentiel, c'est quelle est l'imputation, quelle est la désignation de responsabilité du malheur psychique. C'est ça l'enjeu idéologique de nos jours.
Et
un deuxième enjeu idéologique essentiel, c'est la question de la justice sociale. Voilà, c'est-à-dire qu'on occulte le rôle de l'injustice sociale dans la genèse du trouble psychique.
Alors,
Là aussi, c'est un enjeu politique.
Un enjeu politique essentiel. Mathieu Bellassène, on arrive presque au terme de cette émission. On parlait tout à l'heure de cette santé mentale positive que l'on pourrait définir, pour reprendre les termes de l'OMS, comme un état de complet bien-être physique, mental et social. A priori, on ne peut être que d'accord avec ça. Mais ce que vous pointez, Mathieu Bellassène, ce sont les ambiguïtés justement de la définition de ce bien-être.
Oui, parce que c'est la question de la norme de la complétude. Ça ouvre d'ailleurs au transhumanisme, cette affaire-là, parce que vous pouvez toujours courir derrière une complétude, une amélioration permanente de la complétude. C'est pour ça que je pense que le bien-être, le bonheur, etc., tout ce qui peuvent être dans cette définition, se deviennent des instruments, si vous voulez, au service d'une rationalité. Donc, il faut faire extrêmement attention comment à la fois ça transforme la société, ces affaires-là, comment ça va transformer aussi les pratiques, et comment, là, on a parlé tout à l'heure de tout un tas de pratiques promues en ce moment. Nous, là, il y a un moment de soulèvement aussi au sein de la psychiatrie. Il y a un printemps de la psychiatrie qui va être organisé le 21 mars. C'est aussi pour mettre en question ça, c'est-à-dire qu'on peut partir de cette question d'une psychiatrie émancipatrice pour mettre en question l'ensemble du lien social et ne jamais oublier, je pense, que la folie est un microscope du lien social. Donc,
la folie attentif comme microscope du lien social. Lise Demailly, un dernier mot peut-être sur l'avenir de la santé mentale de notre société, justement en lien avec notre système économique capitaliste.
Je crois que l'avenir est totalement ouvert. Ça dépend aussi de comment les psychiatres vont se battre, hein, comment les psychiatres progressistes, humanistes vont se battre pour défendre
les patients et les familles aussi.
Comment ils vont pouvoir nouer des alliances, hein, parce qu'ils ne gagneront pas tout seuls. Donc il faut qu'ils nouent des alliances avec les familles, qu'ils nouent des alliances avec les usagers, qu'ils nouent des alliances avec les gens de culture. Bon, donc de ces batailles et de ces alliances, le visage de la psychiatrie en sera changé. Ou bien alors, autre scénario, on évolue vers une psychiatrie de plus en plus sécuritaire, de plus en plus restreinte aux cas lourds, le médico-social étant chargé de gérer le commun de la souffrance psychique. Ça, c'est un autre scénario.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui encore des projets de privatisation du gouvernement.
Oui, car nous parlions surtout hier de la société Aéroports de Paris qui doit être vendue par le gouvernement selon des modalités pour le moins troubles, comme nous l'explique la journaliste Martine Orange qui a mené l'enquête pour Mediapart. Or, le gouvernement entend se séparer de deux autres entreprises parmi lesquelles la Française des Jeux. Certes, l'entreprise exploitant le loto et autres jeux à gratter ne revêt pas un caractère aussi stratégique qu'Aéroports de Paris, mais sa cession programmée pose un certain nombre de questions auxquelles le ministre peine aujourd'hui à répondre. Sans même revenir sur l'opportunité de se séparer d'une entreprise qui rapporte chaque année de l'argent à l'État, puisque la FDJ dégage près de 200 millions d'euros de résultats nets et 3 milliards en taxes par an, ce sont les conditions mêmes de la privatisation qui inquiètent jusque dans les rangs de la majorité.
Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a pourtant déclaré qu'un renforcement de la régulation serait la condition sine qua non préalable à toute privatisation.
Oui, le gouvernement s'était ainsi engagé à confier la régulation à une autorité indépendante en charge du contrôle de l'ensemble des jeux. Il faut dire qu'aujourd'hui, la supervision des différents types de jeux d'argent sont éparpillés façon puzzle à l'intérieur. La supervision des casinos, à l'agriculture, le PMU, à Bercy, la FDJ, etc. Le projet initial visait ainsi à renforcer le périmètre et les pouvoirs de l'ARJEL, autorité de régulation des jeux en ligne, qui a montré son efficacité depuis sa création en 2010. Mais l'autorité unique et indépendante, annoncée par le gouvernement, risque finalement de n'être ni l'un ni l'autre. Le ministère de l'Intérieur ayant gentiment mais fermement refusé de perdre la main sur les casinos où il trouverait un certain nombre de sources et d'indices pour ses enquêtes. Certains parlementaires espéraient par ailleurs que le sort de la FDJ soit réglé dans une loi spécifique. Il sera finalement expédié dans la loi Pacte, texte fourre-tout qui ne consacrerait qu'une ligne à la fin du monopole d'État. Les modalités de cette privatisation seront donc décidées par le gouvernement dans une série d'ordonnances, un chèque en blanc signé par le Parlement à l'exécutif, comme le résume un député de l'opposition.
Le gouvernement actuel n'est pourtant pas le premier à vouloir vendre la Française des Jeux.
Non, effectivement, en 2009, Nicolas Sarkozy avait envisagé la privatisation de l'entreprise avant de reculer face aux soupçons de vouloir ouvrir le secteur au profit de certains de ses amis. En 2014, c'est un certain Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, qui fit ressurgir le spectre de la privatisation, mais le dossier fut à nouveau enterré devant l'hostilité du secrétaire d'État au budget, Christian Eckert. Ce dernier explique aujourd'hui sa décision en rappelant que la vente de la FDJ rapporterait en une seule fois une recette exceptionnelle, mais priverait l'État de sa capacité à imposer toute règle de prévention à l'addiction, de lutte contre le blanchiment ou d'interdiction de jeux pour les mineurs.
Et c'est d'ailleurs, Arjuna, la principale critique formulée aujourd'hui à l'encontre d'une privatisation, celle de voir anéantir les efforts en matière de lutte contre l'addiction.
Oui, il faut dire qu'il y a aujourd'hui près d'un million de personnes qui souffrent d'une forme d'addiction à ces jeux de grattage ou de loterie. Si certains chercheurs dénoncent les méthodes de la FDJ qui pratiqueraient une forme d'activisme commercial poussant les Français au vice du jeu, l'entreprise rétorque au contraire qu'elle s'attache à mener une politique de jeu responsable. En atteste la décision d'arrêter la commercialisation du Rapido, l'un de ses jeux les plus rentables mais aussi les plus addictifs. Plus largement, les politiques d'accompagnement et de sensibilisation des publics fragiles risquent de disparaître sans un encadrement strict de la privatisation. Aussi maigre soit-il, les efforts de l'État en matière de protection des malades du hasard risquent donc de faire pâle figure face aux perspectives de profit que représente un tel marché. Des risques qui ne semblent cependant pas affecter la décision du gouvernement bien décidé à se débarrasser de l'entreprise des jeux et du hasard. Il faut dire que la santé ou le mal des Français semble bien peu de choses face à la perspective d'intérêts financiers qui ne doivent pour leur part plus grand-chose au hasard.
Fuck.
On se quitte avec les Talking Heads, Psycho Killers. Merci beaucoup Mathieu Bellassène et Lise Demailly d'avoir été avec nous aujourd'hui. Demain, vous entendrez l'écho du grand amphithéâtre de la Sorbonne. Entendez-vous l'écho participer mardi dernier au forum France Culture consacré au nouvel âge de la politique. Quel degré d'inégalité nos sociétés peuvent-elles supporter? C'est à écouter demain à partir de 14h sur France Culture. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.